الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعه الإسلام لا سمين ديانيه On avait vu, on avait essayé de développer une des étapes de l'au-delà qui est le mahshar, la résurrection et le moment où Allah Azza wa Jal remet des livrets d'action à chaque personne, chaque croyant qui va recevoir son livret d'action en fonction de son niveau de iman, de son niveau de pratique. Ce qu'on va voir aujourd'hui, incha'Allah, on va continuer dans les différentes étapes de l'au-delà et parmi donc les étapes du Akhirah, bismillah, on retrouve la page. نعم ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب donc ça reprend un petit peu les introductions qu'on avait fait concernant la résurrection être persuadé quand on parle de croyance en l'au-delà être persuadé qu'il y a un hisab c'est-à-dire que chaque personne aura des comptes à rendre et il y a deux catégories de hisab il y a ce qu'on appelle hisab en yassira lorsqu'on parle de hisab en yassira ça doit être le souhait de chaque croyant que d'être appelé par Allah Azza wa Jal et d'avoir un compte qui est yassir, qui est facile. C'est quoi un hisab et un yassira ? C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal vous fait reconnaître à l'homme ses erreurs, ses manquements et qu'à l'issue de cet entretien entre Allah Rabbul Izza et sa créature, Allah Azza wa Jal informe sa créature qu'il lui a accordé son pardon. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne va pas demander des comptes à la personne précisément pour chaque péché, pour chaque fait et geste qu'il accomplit en dehors des frontières du licite. C'est qu'Allah Azza wa Jal va lui faire reconnaître qu'il a des erreurs, qu'il a des manquements dans son livret de compte et la personne va reconnaître. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Rabbul Izza va parler avec son serviteur et aucune personne ne sera témoin. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Pour les gens qu'Allah Azza wa Jal va protéger, qu'Allah aime le jour de Qiyamah, c'est qu'Allah Azza wa Jal va protéger les secrets de cette personne. Dans ce dunya, dans ce monde, tant de personnes, qu'Allah nous pardonne, tant de personnes peuvent donner l'impression d'être vraiment des exemples de droiture, des exemples de piété, mais intérieurement, on a tous des péchés enfouis, cachés. Et un cœur tellement noirci, il y a tellement de mauvaises choses à l'intérieur qu'on aurait souhaité que personne ne sache ce qu'il y a réellement de nos cœurs. C'est pour ça que, on ne va pas perdre le fil, mais il est important, si on veut qu'Allah Azza wa Jal nous protège notre honneur dans l'au-delà, il faut protéger l'honneur de son frère en islam dans ce monde. Dans une version, il est dit que celui qui protège l'honneur de son frère en islam dans ce monde, c'est-à-dire qu'il ne... Ça veut dire quoi protéger l'honneur de son prochain? C'est qu'il ne dévoile pas les défauts de son prochain. S'il m'est arrivé de connaître que telle personne, malheureusement, dans son intimité ou quand personne ne le voit, il commet tel péché ou il a telle mauvaise habitude ancrée en lui, il ne faut surtout pas le dire aux gens. Bien au contraire, un bon musulman, en général, on appelle ça un bon camarade, un bon ami, mais ce n'est pas uniquement un bon camarade. Un mu'min, un homme pieux et sincère, c'est celui qui va toujours essayer de défendre son frère en islam. Ça, c'est un point très important. Dans une autre version, le prophète alayhi salatu wa sallam avait dit « Unsur akhaka zaliman aw mazlouma ». Sahaba, ils ne comprenaient pas du prophète d'Allah. C'est la traduction. « Viens en aide à ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les sahaba, ils ne comprenaient pas. Il dit au prophète d'Allah qu'on vienne en aide à notre frère en islam lorsqu'il est opprimé. Oui, ça on est conscient, on doit aider notre prochain. Si quelqu'un a fait du tort, on est là pour prendre sa défense. Mais au prophète d'Allah, l'aider quand il est oppresseur. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam donne la définition de zalim dans le sens de ce contexte. Il dit que s'il fait des erreurs, il fait des péchés, il sort du cadre de la sharia, donc il fait du zulm. Il devient oppresseur de cette façon, tu dois l'aider, c'est-à-dire lui montrer c'est quoi le droit chemin. Lui faire le rappel afin qu'il revienne vers le droit chemin. Ça fait partie des droits de notre frère en islam. Et parmi des droits de notre frère en islam, c'est de cacher ses défauts, comme on vient de le dire.
de ne pas montrer aux gens que lui, il a tel défaut ancré en lui, il fait telle chose haram, qui est caché, qu'on ne sait pas. D'ailleurs, une petite parenthèse, une fois, si je ne me trompe pas, c'était Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui avait suivi une personne, et il doutait que cette personne buvait de l'alcool. Et il est rentré chez lui, il a vu la personne en train de boire. Mais la personne qui buvait était pécheur, mais on a reconnu que Omar radiallahu anhu n'aurait pas dû faire ça. Parce que quand quelqu'un est dans sa maison, quand il est dans son intimité, c'est entre lui et Allah. Yani, nous ne sommes pas des juges. On n'a pas à mettre des caméras, des petits trucs, des micros pour voir est-ce que lui fait des péchés ou lui quelqu'un de bien. Faut pas. Parce que nous-mêmes, on a tellement de péchés dans, subhanallah, plus profond de nous-mêmes. Ça peut être des péchés zahir, extérieurs qu'on fait. D'accord? Ou des péchés intérieurs, ça peut être la jalousie, l'orgueil, l'ostentation, la haine envers ce prochain, les mauvaises pensées, l'envie que de voir notre prochain tomber, chuter, que nous seulement on réussit, que lui il perd. Ça, c'est des choses qui sont parfois dans la pas dans la fitra, mais qui sont un peu instinctifs. Qu'on a ça, c'est des défauts qui sont ancrés en nous, mais tout ça, ce sont des sources de péchés. Les péchés, ça peut être des choses que tu fais avec tes mains, tu regardes avec tes yeux, tu écoutes avec tes oreilles, mais ça peut être des réactions du cœur. La jalousie, c'est un péché, on est d'accord. L'ostentation, c'est un péché, on est d'accord. Et ainsi de suite. Donc, parmi les devoirs du croyant, c'est de protéger son frère en islam, c'est-à-dire de ne pas dévoiler ses péchés. Donc, pour revenir, faire le lien avec le hadith, celui qui protège l'honneur de son frère de ce monde ne dévoile pas ses péchés. D'accord? Excusez-moi, encore une parenthèse. Il dit que quand on a affaire à un frère en islam qui fait une erreur, on doit essayer de trouver le maximum d'excuses pour cette personne. C'est-à-dire, il ne faut pas condamner les gens. Qu'Allah nous pardonne. Si quelqu'un fait une petite erreur, tout de suite on le condamne. On va le mettre dans la catégorie des mauvaises personnes. C'est comme si c'est nous qui possédions les tiroirs. Les gens du droit chemin, les gens égarés, les oppresseurs, les pécheurs en Dieu. C'est na'oudhu billah. Et heureusement que le jour de Qiyama, c'est Allah qui juge. Que ce n'est pas les êtres humains qui jugent. Parce que si c'est l'homme qui devait juger, na'oudhu billah, tout le monde irait dans le jahannam. Heureusement que celui qui juge, il est Rahman. Celui qui juge, il est clément, miséricordieux, il est Raouf, il est Rahim. Il connaît l'erreur de l'homme. Il connaît les manquements de l'être humain parce que c'est lui qui a créé l'être humain. Avec ses manquements, avec ses faiblesses, avec ses défauts. C'est lui qui a créé le char, tout ce qui est mauvais. Shaitan, Iblis, les shahawat, les pulsions, ad-dajjal. Tout ce qui entraîne l'homme vers le péché. Donc Allah Azza wa Jal connaît la faiblesse de l'homme. Et c'est en connaissance de tout ça qu'Allah Azza wa Jal juge le jour de Qiyam. Pour ça, dans le hadith, il est dit que concernant la personne qui ne fait pas ses salats, ça c'est un péché grave, min al-kaba'ir, celui qui ne fait pas ses prières. Wa ta'ala salat, ça c'est du jour de Qiyam, bien sûr, ce sera la première chose à propos de laquelle nous serons questionnés, donc jugés. Mais à la fin du hadith, ou dans d'autres versions, il dit « Insha'a azzaba » wa insha'a ghafara » ou le contraire, « Insha'a ghafara lahu wa insha'a azzaba » Pour certaines personnes, Allah va sévir et punir à cause du manquement de l'Israël. Et pour d'autres personnes, Allah va pardonner. Pourquoi? Différence de jugement, c'est parce qu'Allah, Rabbul Izza, connaît les circonstances, connaît le contexte dans lequel chacun de ses serviteurs évolue. Ça, c'est la clémence d'Allah, Azza wa Jal. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, celui qui cache les défauts de son frère en islam de ce dunya, le jour de Qiyam, Allah Azza wa Jal va cacher ses défauts. Autrement, ce sera l'humiliation pour la personne. Fada'ih, que tous ces péchés intérieurs qu'il ne voulait pas que les gens sachent de ce monde soient livrés en public, pas devant quelques personnes, devant Al-Mahshar. Et là, ça fait partie des spécificités de l'au-delà, que la terre de la résurrection est une terre immense, gigantesque, sans limite, et le nombre de créatures d'Allah qui est ressuscité, aucun être humain ne peut compter des milliards et des milliards, depuis le premier homme à Adam jusqu'à la dernière créature, les ins, les djinns et les animaux, et les anges qui sont autour. Mais lorsque une parole est prononcée, la terre de Mahshar peut entendre. Mais donc celui qui va, alhamdoulilah, qui a cette qualité qui protège l'honneur de son frère de ce dunya, il aura cette garantie qu'Allah Azza wa Jal protégera son intégrité, protégera son honneur le jour de Qiyama. Alors donc ce qui nous intéresse, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam explique c'est quoi le hisab en yassira, ça c'est le dua que nous devons toujours demander. Oh Allah, Allahumma hasibna hisab en yassira. Ça c'est l'idéal. Et le prophète dit que Allah Azza wa Jal va appeler la personne wa yuqarriruhu bidhunubi, lui fera connaître ses péchés. Atadhkuru kaza, est-ce que tu te souviens de tel péché? Est-ce que tu te souviens à tel moment tu as fait telle erreur? Hatta yaqul na'am, jusqu'à ce que la personne soit obligée. La personne va dire oui, oh Allah, je reconnais. Il va accepter. فيقول الله عز وجل له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا منهم. Dit que j'ai caché tes péchés aux yeux des gens de ce monde et en ce jour je t'accorde mon maghfirat. Ça c'est l'homme le plus heureux. Mais avant lui, il y a quelqu'un de plus heureux. C'est celui qui va de l'Jannah bighayri hisab. Ah, ça c'est vraiment Allahu Akbar. Ça c'est les meilleurs des meilleurs, the best of the best. Ceux qui vont de l'Jannah, Allahumma ja'alna minhum, sans même rendre compte. Tout comme qu'Allah nous protège, il y a des gens qui vont de l'Jahannam sans rendre compte aussi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Des gens condamnés qui vont de l'enfer sans rendre compte qu'Allah nous protège. Wa amma al-kafir, alors que quand on va de plus en plus loin dans la foi entre ceux qui font des péchés, entre ceux qui n'ont pas obtenu le pardon d'Allah dans ce dunya, entre le fasiq, le pécheur endurci, entre murtakib al-kaba'ir, celui qui accomplit des péchés graves, jusqu'à arriver au kafir, les comptes se seront difficultés sur difficultés. Il y a quelque temps, j'étais dans une réunion avec certaines personnes et on devait passer en revue un cahier, un genre de cahier des charges qu'on devait revoir. Et le cahier était très long. Il y avait plein de choses écrites. Et je me suis rendu compte que la personne qui était chargée de lire a commencé à lire depuis le début. Je dis, Ya Allah, imaginez que vous avez 25 pages écrites en tout petit et que chaque page, il doit expliquer, s'arrêter, commenter, on continue. Je dis, ben, ça va jamais se terminer, ça. Ça va prendre 3 heures de temps, 4 heures de temps, à un moment donné, vous angoissez. Si vous êtes claustrophobe, vous vous étouffez. Je dis, ben, ça va prendre une demi-journée, une journée, on va jamais s'arrêter. Et puis là, je fais le parallèle. Je dis, oui, mais le jour de Qiyama, comment ça va être? Les gens vont être appelés un par un. Et quand une personne est appelée, qu'est-ce qu'ils font les autres personnes? Ils sont en transit? Non. Ils sont dans un salon en train d'attendre? Non. Ils sont debout sous le soleil dans les difficultés de l'au-delà et ils attendent leur tour. Et le souhait le plus cher pour chaque personne dans cette situation-là, c'est qu'Allah Rabbul Izza le juge le plus vite possible. Et ça, on avait vu avant que même les koufars, lorsqu'ils vont réaliser, ceux qui n'avaient pas iman, ils vont réaliser que Allah est présent et les anges sont là et que le din de l'islam, c'était le din de la véracité et qu'ils sont donc dans l'erreur, ils vont demander à Allah de les envoyer tout de suite dans le jahannam, le plus vite possible pour ne plus rester dans cette situation qui est terrible, la situation du mahshar. Donc chaque individu, un par un, va se rendre auprès du très aimé d'Allah Azza wa Jal et répondre de chacune de ses actions bonnes comme mauvaises. Imaginez, si on vous pose une question sur une semaine, combien de temps ça prend? Tout ce que tu as fait depuis, là, le 1er octobre, combien de temps il faut prendre? Mais là, on va parler de l'existence, une vie, la vie d'une personne depuis qu'il est baligh jusqu'à sa mort. Donc ça, mes chers frères en islam, ce sont là des étapes très difficiles et nous devons demander à Allah de nous accorder hisab et yassira, un compte qui est rapide. Donc, les muhadithines expliquent que lorsque on prend conscience de ces étapes, bien sûr, ça fait partie de la foi, du iman, du croyant, de connaître ces étapes-là. Mais on ne doit pas s'arrêter au ilm. Ce n'est pas juste que je sais qu'il y aura la résurrection, qu'il y aura des comptes. Non. Maintenant, le musulman intelligent, qui va un peu plus loin, qui va au plus profond des choses, qui veut comprendre sa foi, il se pose la question... Comment est-ce que je me prépare pour cette étape? Si cette étape devait avoir lieu là, après cette assemblée, après ce majlis, comment est-ce que je me prépare pour répondre à Allah Azza wa Jal? Imaginez la personne qui prend l'initiative de commencer un péché. Imaginez quelqu'un, je vous donne un exemple, hein, un exemple que, Allah Musta'an, que je connais. Personne qui, mashallah, avait une épouse, alhamdulillah, vertueuse, qui se couvrait bien. Du jour au lendemain, le mari incite son épouse à enlever son châle. On ne parle pas du niqab, le châle, se couvrir les cheveux, ce qui est une obligation pour la femme musulmane. Parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est quoi? C'est l'intégration, ou il veut se faire bien voir auprès de ses collègues? Wallahu musta'an, je ne veux même pas savoir pourquoi. Hasil, c'est une situation concrète. Maintenant, cette personne qui prend cette décision, ce père de famille, ce mari qui prend cette décision doit se poser la question, si mon hisab avait lieu ce soir, si l'ange de la mort prend mon âme, et qu'imaginez que le hisab ait lieu ce soir, et que je suis présenté devant Allah Azza wa Jal, qui me pose cette question. Ô mon serviteur, Pourquoi est-ce que tu as ordonné, tu as demandé à ton épouse de, d'abandonner quelque chose de vertueux pour rentrer dans un péché? C'est là la bonne question. C'est ça le musulman intelligent qui sait faire le lien entre ses choix immédiats et ses conséquences au jour des comptes. Mes chers frères, tant qu'on ne fera pas le lien entre le dunya et le akhira, on ne comprendra pas vraiment le dîn comme le sahaba l'avait compris. Parce que la connaissance de ces étapes de l'au-delà, encore une fois je le dis, ça ne doit pas se limiter à un livre ou des écrits ou un audio ou des discours qu'on entend. Ça doit être quelque chose qu'on doit intégrer et qui doit changer notre manière de vivre. Parce que l'orientation que je donne à ma vie, ça doit être, c'est comme si vous avez une piste de décollage, l'objectif c'est d'atterrir dans ces étapes de l'au-delà. C'est pas juste quelque chose que vous avez appris et que voilà, ça fait partie de ma connaissance générale, de ma culture générale. Là, wallah, on parle pas de culture générale là, on parle de ton avenir, on parle de ton akhira, de ton devenir, de ce que tu seras le jour de Qiyam. Il faut savoir que le jour de Qiyam, personne n'aura pitié de toi, à part Allah Azza wa Jal. Et ensuite, si Allah l'autorise, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de l'intercession du shafa'a, shafa'a qui peut avoir lieu très tôt, mais shafa'a qui peut avoir lieu très tard. Parce qu'il y a des gens qui sortiront parmi les derniers du Jahannam, après avoir passé des moments terribles dans l'enfer, des gens qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, donc Allah nous protège. Alors, dans ce dunya, je suis un père de famille, hein, j'ai l'impression que je vais bien agir avec mes enfants. D'accord? Je vais inscrire mes enfants dans les meilleures écoles et je vais faire en sorte qu'ils se consacrent uniquement aux études. Maintenant, tout ce qui concerne la madrasa, le dîn dit non, il n'y a pas besoin. Au moins, tu te concentres sur tes études. La prière, la mosquée, non, pas besoin, ne te fatigue pas. Concentre-toi sur tes études, tu deviendras un grand médecin, un grand avocat et je vais être fier de toi. Tu gagneras beaucoup d'argent. J'ai l'impression que je suis en train de construire, de donner tout le bonheur à mon fils, mais en fait, je suis en train de détruire son akhira. Et si ce père de famille est assez naïf ou à croire que le jour de Qiyama, cet enfant lui sera d'une quelconque utilité, Allah musta'an, jour de Qiyama, où le papa ne connaîtra pas son fils, le fils ne connaîtra pas son père, ni le frère, ni la sœur, ni la compagne, personne, parce que pourquoi ? Un sha'n terrible ça, sha'n yurini. Une situation qui le préoccupe. Parce que, le jour de Qiyam, chacun aura une situation qui l'occupe. C'est pour ça que, yawma yafirrul mar'u min akhi, et il y a tout. Il y a le frère, il y a les enfants, il y a le compagnon. C'est-à-dire, les gens qui, en temps normal, sont les plus proches de nous. Les gens sur qui nous comptons le plus de ce dunya. Quand on a besoin de quelque chose, on va voir si nos parents sont vivants, on va voir nos parents. Si on est parents nous-mêmes, on va voir nos grands-enfants, ou frères, sœurs, notre épouse, notre mari, et ainsi de suite. Mais ces mêmes personnes, je dis Qiyama, c'est comme si on dirait qu'ils se lavent les mains. Ils ne veulent même pas te voir. Ils ne veulent même pas te connaître. Ne parlent pas de venir négocier des hasanat abadan. Maintenant, qu'est-ce qui me sera profitable? Un enfant pieux. Pour ta'alif, salat wa salam, des hadiths que parmi les choses qui seront profitables aux défunts. Waladun salihun yad'u lah. Un enfant pieux qui invoquera Allah pour son papa qui est décédé. Ou d'une manière générale, umuman, un enfant pieux qui fera des bonnes actions, parce que comme nous, on a été l'intermédiaire pour qu'il soit dans le droit chemin, nous serons, mashallah, les premiers à profiter régulièrement, comme une sadaqa jariya, comme on appelle un waqaf. Ces actions-là nous seront, mashallah, profitables. Ça, c'est l'homme le plus heureux au monde. Qui, après sa mort, il continue à obtenir les récompenses parce qu'il a laissé des enfants pieux. Alors que celui qui n'a pas pensé du tout au dîn de ses enfants, il va croire que le jour de Qiyama, ça lui sera d'une quelconque utilité. Abadan la wallah. Combien de personnes sont mortes avec des bâtiments, avec Allahu Akbar. Et le Coran, ce qui est magnifique avec le Kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'à chaque époque, n'importe quelle catégorie d'être humain peut se retrouver à travers le Coran, peut trouver les exemples qui lui permettent de revenir sur le droit chemin. Que ce soit quelqu'un qui habitait à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des Khulafa Rashidin, des Umayyads, des Abbasides, des Ottomans, ou à notre époque, ou même à l'époque avant Dajjal. Peu importe. Par le biais du Coran, « Taraktu fikum ma in » Tamassaktum bihi, accrochez-vous, lantadillu abada, vous ne serez jamais égaré. Je vous ai laissé ces deux choses, accrochez-vous à ces choses, le Coran et la Sunna, Kitabullah et la Sunnati. C'est-à-dire que quelle que soit l'époque, quelle que soit la période de corruption, de péché, de fitna, comme on dit, Quel que soit le lieu géographique, la période, notre situation, quelqu'un peut se retrouver, peut retrouver le sirat al-mustaqim, le droit chemin par le biais du Coran. Et pour avoir cet exemple, cette illustration du Coran, Allah Rabbul Izzah a révélé l'histoire de Qaroun. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabara alim. Wa ataynahu min al-kunuz. Et le verset est grand, il est magnifique. Et je me souviendrai, Allahu Akbar, toujours à l'époque où on était étudiant dans la ville Mubarak de Madina al-Nabawiyya. Lorsque Cheikh Abdul Bari Thubayti, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de prier des Cheikh Abdul Bari Thubayti, Masha'Allah, quand il lisait l'histoire de Inna Qaruna kana min qawmi Musa, vous avez des frissons sur tout le corps. Il le lisait peut-être deux fois par an dans Salatul Isha, mais c'était un bonheur total. Si en plus on connaît l'histoire, on connaît un petit peu le tafsir, ça vous rappelle Allahu Akbar. On a l'haakum al-takathur hatta zurtum al Maqabir, on va rendre visite aux tombes tout le temps, mais c'est pas rendre visite dessus, c'est rendre visite dessous, c'est-à-dire lorsque vous y seriez. C'est là qu'on comprendra que at-takathur, gagner plus, la cupidité, ramasser, ça c'est quelque chose qui nous détruit. Alors que ça fait partie de la nature humaine, de vouloir gagner plus. Donc on revient à ce qu'on disait, subhanallah, on est parti un peu loin là, subhanallah, on revient, on disait que combien de personnes sont mortes avec des bâtiments, avec des richesses, avec des comptes en banque pleins en Suisse, en Amérique, aux îles Maldives, aux îles Caïmans, ils payaient pas ses impôts, il y avait, mashallah, beaucoup d'argent. Ça sert à quoi? Même ceux qui ont eu ce toupet de demander à être enterrés avec le trésor, où sont leurs trésors? Ces pharaons, ces rois d'Égypte, il y a eu des gentils occidentaux qui sont passés derrière avec le droit de l'homme des citoyens, et qui ont pris, qui ont pillé les tombeaux, ainsi de suite. Même ceux qui se sont fait enterrer avec l'or, l'argent, il n'y a plus rien. Wallah musta'an, quand on a tous assisté à un enterrement, lorsqu'on pose le défunt, il y a quoi? Il y a ikhwan et fillah, il y a trois pièces de tissu, si c'est un monsieur ou cinq pièces de tissu, si c'est un homme. Les fuqaha, ils expliquent que lorsque le défunt il va être posé, vous savez qu'il est bien d'amarrer, on va dire, les extrémités du kafan avec un petit ruban, d'accord, pour pas que ça s'ouvre. Ils disent que les fuqaha, surtout chez les hanaf, ils disent, mais lorsqu'on le pose de la tombe, il faut retirer le petit ruban. Certains fuqaha disent que, parce que dans la tombe, on ne met rien d'extérieur, même ça c'est en plus. Même ce petit lacet ou cette petite cordelette que tu mets pour attacher l'extrémité, ça aussi il n'a pas sa place dedans. La seule chose qui doit être avec le défunt, c'est trois pièces de tissu basse. C'est la seule chose de matériel qu'il emporte. Le reste, c'est quoi? C'est iman et a'mal saliha bas. Est-ce que c'est pas ibra? Est-ce que c'est pas suffisant pour qu'on prenne conscience? Qu'est-ce qu'on amène avec nous dans la tombe? Et qu'est-ce qui sera donc avec nous dans le... C'est pour ça que quand on parle de lien, link, en se donnant le akhira, c'est une continuité. C'est-à-dire que là, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah et qu'Allah accepte ce majlis, cette assemblée, l'assemblée qu'on est en train de faire, bi'idhnillah, là il est 20h20. Quand on va terminer, il y aura les malaïkas qui vont, ils vont dire Allah Rabbul Izza, et Allah c'est mieux qui était présent dans l'assemblée, on aura le péché pardonné. Ce sera un poids de notre livret d'action. Majlis, on apprend le ilm, c'est un poids, c'est des hasanat. Mais on doit être conscient que ces hasanat, je les garde avec moi, je les protège, je les garde avec moi. Dans la tombe, ils me seront profitables. Le jour de Qiyam, ce sera un critère pour ma façon d'être ressuscité. Quelqu'un qui a beaucoup de bonnes actions ne sera pas ressuscité comme quelqu'un qui a peu de bonnes actions et qui a beaucoup de péchés. Ça, c'est tout à fait logique. C'est là la hikmah d'Allah. Ces actions-là seront lourdes, une pesée dans mon mizan, dans la balance au jour de Qiyama, et ainsi de suite. Déjà, faire le lien. Quand je fais une bonne action, je dois réaliser que cette action-là, je le fais, c'est jusqu'au bout, jusqu'à l'entrée du Jannah. Mais malheureusement, le péché aussi. Quand je le fais, je dois être conscient quelles sont les conséquences de ces péchés à chaque étape de ma vie, à l'étape de la mort, l'étape de la tombe, l'étape de la résurrection, l'étape de la remise des livrets, l'étape de la balance, et ainsi de suite sur le sirat et les autres étapes qu'on va voir. Ça, c'est le croyant intelligent qui comprend réellement, qui voit beaucoup plus loin. Et qu'Allah nous protège de voir nos péchés le jour de Qiyam. On va essayer d'avancer un peu plus, parce que le hadith Jibril, ça fait plus d'un an, il me semble qu'on a commencé. Il faut qu'on... Là, on est en train de terminer, là. On va passer de le sixième pilier de la foi, je pense, la semaine prochaine. Parmi Les points importants concernant la croyance en l'au-delà, c'est al-hawd al-mawru li nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croire que le prophète alayhi salat wa salam va avoir ce cadeau de la part d'Allah azza wa jalla, un fleuve, un bassin le jour de Qiyama, et ce bassin s'appelle al-Kawthar, d'où le verset inna a'tainaka al-Kawthar. Ça c'est le plus beau cadeau qu'Allah azza wa jalla a accordé à son Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyama. Allah Rabbul Izzah a accordé des cadeaux magnifiques à notre prophète alayhi salatu wa salam. Parmi ces cadeaux magnifiques, les cinq salats. Parmi les cadeaux magnifiques, Al-Fatiha, Sab' al-Mathani, la surat al-Fatiha. Et parmi les cadeaux magnifiques qui concernent l'au-delà, il y a le Maqam al-Mahmoud et il y a le Hawd, le bassin qui sera accordé à notre prophète Mohammed Mustafa alayhi salatu wa sallam. C'est un bab de l'aqidah, ça c'est un chapitre à développer, mais nous ce qui nous intéresse c'est connaître qu'il y aura ce hawd, ce bassin le jour de Qiyama, et être conscient également que tous les anbiya, selon les ulama aqidah, tous les anbiya auront un fleuve, un bassin, on appellera ça plutôt un bassin le jour de Qiyama, mais le plus beau bassin, celui qui sera le plus honoré, ce sera notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète a expliqué « Ma'un ashaddu bayadan min al-laban » une eau plus blanche, on ne parle pas transparent, plus blanche que le laban. Vous avez déjà vu le laban? Laban, ce n'est même pas comme le lait qu'on boit. Le laban, hein, si vous avez déjà bu, je ne sais pas si vous avez le comment, il y a ça. Mais en Arabie Saoudite, il y a le laban, c'est le lait, si je ne me trompe pas, c'est le premier lait qui sort sans être bouilli. Enfin, moi, si je ne me trompe pas. Et c'est un lait qui est épais. C'est un peu comme, excusez-moi, comme le yop. Ça ressemble, la consistance du yop. Ça, c'est excellent pour la santé, ça. Ça, c'est très bon pour la santé. Maintenant, il faut l'estomac, il supporte, d'accord? Bref, donc il dit, et ça, c'est d'une blancheur écarlate. Il dit que donc, l'eau de ce fleuve, plus blanc que le lait. Wa ahla min al-asal. Allahu Akbar. Imaginez un liquide qui est blanc, éclatant, et qui est plus sucré que le miel. Wa atyabu min ra'ihat al-misk. Et quand vous sentez, ça sent plus bon que le musc. Et cela, ça nous intéresse. Là, qu'on se dit, ah tiens, t'as quelque chose pour gagner là. Que le prophète dit que les ania, comme on pourrait dire, les coupes, les récipients, sont aussi nombreux que les étoiles de le ciel. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde, pour pouvoir boire, étancher sa soif de ce fleuve, le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autant plus quand, ça on nous ramène un petit peu en arrière, qu'on avait expliqué la situation de l'au-delà, avec le soleil. Un, les portes de l'enfer qui sont ouvertes, avec la promiscuité, les gens ils n'auront même pas plus de place pour se tenir debout. La transpiration, des situations catastrophiques, les pires des situations qu'on puisse imaginer, où les gens seront assoiffés, il n'y aura pas d'eau, il n'y a rien à boire, il n'y aura même pas une zone d'ombre où on peut trouver un peu d'ombre. Et là, il y a ce fleuve. Et le prophète Ali, salat, toi, ça me dit que. Wa anna. On continue. Wa anna tulahu shahrun wa arduhu shahr. La grandeur de ce fleuve, c'est comme un voyage de un mois. Sa largeur, c'est comme un voyage de un mois. Donc un fleuve qui est murabba, apparemment, qui est carré. Wa anna man shariba minhu marratan wahida fa innahu la yaghma'u ba'daha. Abada. Celui qui boit une fois de ce fleuve de Kawthar, jamais plus la personne ne ressentira la soif. Jamais plus la personne ne souffrira de la soif dans les étapes de l'au-delà. Allahumma ja'alna minhum. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam va inviter les gens de sa ummah pour boire de son fleuve. Et pour avoir cet honneur, il faut avoir les qualités de la foi, mes chers frères en islam. Donc à chaque fois, maintenant les savants disent connaître que ce fleuve existe, c'est quelque chose. Maintenant la bonne question à se poser c'est que faire? Quelles sont les qualités à développer pour être invité auprès de ce fleuve le jour de Qiyam? Les qualités du iman à développer. Lorsqu'on a une sunna qu'on est prêt à mettre en pratique, on doit se dire que faites le niyat que inshallah par le biais de cette sunna que je mets en pratique, notre prophète m'invitera auprès du fleuve du Kawthar de Qiyam. Quand on entend des personnes critiquer la sunna, qui disent que oui, telle manière de procéder est mieux, quand les gens ils veulent vous faire comprendre que un mode de vie à l'occidental ou de cette façon, c'est mieux que la sunna. On explique à une personne qu'il est mieux de boire assis, il va dire que non, je bois debout, c'est mieux, et ainsi de suite. Il a réalisé, chacun connaît des exemples où les gens ils font istihana. Ils déconsidèrent la sunna. On doit se dire que peut-être par cette sunna, par cet attachement pour cette habitude prophétique, j'aurais peut-être cet honneur d'être invité au Haoud Kauthar, devant le fleuve de ce bassin, devant le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et être honoré parmi les gens de sa umma. Vous savez comment est-ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam va reconnaître sa umma le jour de Qiyam? Sahaba dit au prophète d'Allah, comment est-ce que tu vas nous reconnaître? Baina, entre les gens du peuple de Nuh et jusqu'au dernier des autres prophètes. Le prophète m'a dit que vous aurez une lumière, muhajjalina min athar al-wudu. Les ablutions, le wudu, les ablutions que vous faites vont laisser une lumière sur vos visages. C'est de cette façon que je vais vous reconnaître. Hani'an, bonne nouvelle à ceux qui font plusieurs fois le wudu, les ablutions dans une journée. Bonne nouvelle donc à ceux qui sont réguliers le 5 salat, qui font les ablutions. Nous avons cet espoir. C'est pour ça que, encore une fois, on le dit, faites le lien chaque fois entre ce que nous faisons et l'au-delà. Chaque fois que vous faites le wudu, vous lavez le visage, faites le lien, oh Allah, que mon visage soit illuminé le jour de Qiyam. Ya Allah, par le biais de ce wudu, que le prophète alayhi salat wa salam voit cette lumière et me reconnaît et m'invite le jour de Qiyam. Vous voyez comment chacune de nos actions aussi, je ne veux pas dire minime, parce que ce n'est pas minime ça, c'est une grande action le wudu, qui est parfois devenu quelque chose d'habituel, ça peut avoir une valeur inestimable le jour de Qiyam. Ça peut avoir une valeur inestimable le jour de Qiyam, mais qu'on prenne conscience que tout ça, c'est des cadeaux qu'Allah nous donne. Prendre conscience de l'importance de ces gestes qui sont faciles et qui peuvent nous procurer énormément de récompenses, de daraja, de haut degré le jour de Qiyam. Hada. Donc les ulama disent, voyez, même dans les situations terribles de l'au-delà, il y a des gens qui seront heureux et épanouis. Et ça doit être mes objectifs. Comment faire pour être parmi les cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyam? Comment faire pour être parmi ces gens qui vont recevoir le livret de compte de la main droite et qui vont lever le livret de compte, montrer aux gens et qui vont dire, ha umuqra'u kitab, ya venez, lisez mon livre, j'ai réussi, Allah m'a accordé son contentement, son rida. Comment faire pour être parmi les gens qui auront hisab an yassira, un compte facile et qui seront envoyés de le Jannah? Comment faire pour être parmi les gens qui seront invités vers le Hawd, vers le bassin de le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment faire pour être parmi ces gens qui vont franchir, on va voir ça la semaine prochaine, le sirat à la vitesse de l'éclair, qui vont accéder au Jannah avec joie, parmi il y a un hadith qui stipule la première délégation qui vont entrer dans le Jannah. Ils disent qu'ils vont s'attraper, ils vont s'embrasser dans le sens du mot bras. Les bras, les uns avec les autres, collés. Ils vont entrer ensemble dans le Jannah. Hein, un peu l'image de, comme si vous avez une vingtaine de personnes qui passent une ligne d'arrivée en même temps. Ils vont entrer dans le Jannah en même temps. Ça, comment faire pour être parmi ces gens-là? Et pas parmi ceux qui sont au fond, qui attendent leur tour, qui vont vivre supplice, châtiment, difficulté. C'est ça notre objectif. C'est ça le but de notre vie. Comment prendre le bon décollage pour être parmi les meilleurs le jour de Qiyama, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ses plus hauts rangs et nous accorde ses honneurs le jour de Qiyama, lorsque les gens seront dans des difficultés, qu'Allah nous élève. Allahumma amin. La semaine prochaine, inshallah, on va compléter avec Al-Iman bis-Sirat, également Al-Qanatir, qu'on parle de le Sirat, le pont, et puis ensuite les étapes où Allah Rabbul Izzah va régler les problèmes entre les gens. Ça, c'est une étape encore difficile. Et puis, Inch'Allah, je pense que ce sera terminé. Et puis on va étudier, Inch'Allah, le dernier, la sixième branche du Iman, wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharri, le destin qui vient d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accepte, chers frères, comme nous sommes rassemblés de cet endroit, Inch'Allah, le jour de Qiyama, dans le Firdaus al-A'la de le Jannah, nous aurons, Inch'Allah, l'occasion de nous retrouver et de nous rappeler des ayyam al-dunya. Qu'Allah nous permette de mettre tout ce qu'on a dit en pratique, que cela illumine nos cœurs, augmente notre iman et nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Tawfiq illa billah, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yusifun, salamun ala al-mursaleen, alhamdulillah, rabbil alamin. Jazakum khair.